Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Il vous est sans doute arrivé d'interpeller votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, comme s'il s'agissait d'un être humain et de pester contre son incompétence, son imbécilité, pour ne pas dire plus. John Fante a écrit « Mon chien stupide, nous pourrions clamer ce matin, mon ordinateur stupide. Quand le numérique censé nous faciliter la vie nous la complique sévèrement, en cas de bug, d'erreur ou de dysfonctionnement, les ordinateurs se sont immiscés dans tous les pans de notre vie quotidienne. » Prendre un rendez-vous médical, payer nos impôts, actualiser notre situation de demandeur d'emploi ou pour nous guider en voiture, tout ceci peut se transformer en galère quand l'intelligence artificielle se transforme en bêtise bien réelle. En cas de bug, nous nous rendons compte de la dépendance de nos sociétés au numérique. Tous ceux qui vivent dans une zone blanche ou grise en savent quelque chose. Je vous propose ce matin un petit bêtisier de la vie numérique en compagnie du journaliste Cyprien Sini et avec le sociologue Rémi Oudguiri. Racontez-nous les absurdités kafkaïennes du numérique, racontez-nous par exemple les formalités administratives qui deviennent très compliquées à cause de nos ordinateurs. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Vers 10h35, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce, consacrée à la nouvelle affaire Polanski. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous êtes journaliste sur une radio concurrente et néanmoins amie et vous publiez un livre très amusant, Nos ordinateurs sont très cons, chez Albin Michel. Vous auriez pu paraphraser John Fante, mon ordinateur stupide, mais vous avez préféré être beaucoup plus direct.
Ouais, plus vulgaire aussi.
J'ai pas dit ça.
Ça fait réagir.
Alors sous des allures légères, votre livre raconte au fond l'emprise du numérique dans tous les pans de notre vie quotidienne.
Ouais, c'est absolument ça. En gros, notre vie quotidienne est régie par le numérique et on a décidé de mettre l'ordinateur sur un piédestal en lui donnant un pouvoir quasi divin, voire parfois incontrôlable. Et il est censé nous faciliter la vie, ce qui est le cas, heureusement, dans la majorité des cas, sinon ça marcherait pas. Mais quand, en revanche, ça marche pas, ça marche vraiment pas. Et ça nous met dans des situations complètement ubuesques et kafkaïennes, et c'est un peu ce que je raconte dans ce livre.
Qu'il s'agisse de payer ses impôts, déclarer sa situation à Pôle emploi, réserver un billet de train, faire tout un tas de démarches administratives, ça devient quasi impossible quand nos ordinateurs bug.
Oui, et surtout qu'on se retrouve ensuite dans un système qui est pas fait pour le bug. Le bug n'est pas envisagé. Donc quand il y a un problème, vous vous retrouvez face à un autre ordinateur ou un autre système qui vous ramène à un autre système. Et en fait, pour parler à un humain, ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus compliqué. Et comme l'ordinateur, c'est une machine un peu bête, constituée de 0 et de 1 et de suite numérique, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de nuance. Et donc, quand il y a un problème, bah, ça devient terrible et vous galérez pour avoir quelqu'un de réel, d'humain, qui vous parle et qui vous aide à résoudre le problème.
Bonjour Rémi Oudguiri.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, habitué de notre émission, directeur adjoint du cabinet Sociovision. Et vous avez publié en poche Déconnectez-vous, c'est devenu impossible donc d'échapper à l'empire, à l'emprise du numérique, parce que le risque que l'on court, c'est de se compliquer sa vie quotidienne. Oui, si alors, on se déconnecte totalement.
Totalement. Je dirais que le numérique facilite quand même globalement les choses. On le voit pour la vie pratique, les impôts par exemple, les opérations bancaires. Aujourd'hui, plus de 80% des gens font les opérations bancaires par Internet. Après, nous, on a, cette année, chez Sociovision, on a essayé d'étudier les irritants des Français, ce qui irrite dans la vie quotidienne. Alors, il y a un irritant qui irrite tout le monde, c'est faire la queue. Ensuite, il y a les embouteillages. Et on a été frappé du fait que résoudre des problèmes informatiques arrivait en troisième, quatrième position. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait partie du quotidien de beaucoup de gens. Et en effet, ce qui devrait nous simplifier la vie, parfois, nous la complique de façon presque absurde.
Mais c'est amusant quand vous parlez des irritants, parce que justement, grâce au numérique, on était censé éviter ces irritants. Et en fait, parfois, ça nous plonge vers de nouveaux irritants. Je prends l'exemple du GPS, quand vous dites les embouteillages, c'est vrai que c'est insupportable. Donc on a tous des applis anti-embouteillage, le GPS dit intelligent. Mais en fait, ces GPS intelligents créent d'autres embouteillages ailleurs. En vous en sortir de l'autoroute, ils vous emmènent dans des itinéraires de délestage qui sont pas faits pour absorber autant de population. Et donc, ça crée de nouveaux embouteillages. Donc ça crée un nouvel irritant.
Et y a un nouvel irritant qui est apparu dans la vie des Français, parfois ils ne le savent pas, c'est les fameux chatbots, les fameux robots conversationnels, c'est-à-dire vous appelez parce que vous avez un problème et vous avez un robot qui vous répond avec une voix humaine, mais son jeu de réponse est relativement limité. Donc très souvent, vous arrivez avec des impasses et avant d'arriver à avoir un contact humain, ça prend une sorte de chemin semé d'embûches. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Je dirais qu'on est à un moment de grande exploration parce que beaucoup de choses sont quand même simplifiées, il faut le reconnaître, par le numérique, mais il y a des nouveaux outils qui sont pas encore au point, notamment tous ceux qui sont liés à une certaine dose d'intelligence artificielle. Je pense que si on veut pas être trop pessimiste, il va y avoir quand même, il y a aujourd'hui toute une génération d'ingénieurs qui travaillent pour perfectionner ces nouvelles interfaces. Donc il faut garder aussi, c'est moi qui le dis, qui écrit Déconnectez-vous, un peu d'optimisme.
Cyprien Sini, vous avez presque 40 ans, vous ne regrettez tout de même pas le temps des téléphones filaires à cadran rotatif et les Minitel.
Non, voilà, il faut pas être manichéen non plus. Tout n'est pas acheté. Je propose pas de retourner vivre dans une caverne sans numérique. En revanche, il y a un usage raisonné à avoir et puis surtout du recul par rapport à tout ça. Voilà, c'est juste la déification de l'informatique qui m'a un petit peu énervé et donné envie d'écrire ce livre.
Alors, vous l'écrivez en capital, nos ordinateurs sont des cons. Et pour aller dans votre sens, je cite l'informaticien Gérard Berry, titulaire de la chaire algorithme, machine et langage au Collège de France, titulaire de la médaille d'or du CNRS, je le cite, l'ordinateur et l'homme sont les deux opposés les plus intégraux qui existent. L'homme est lent, peu rigoureux et très intuitif. L'ordinateur est super rapide, très rigoureux et complètement con. C'est Gérard Berry qui le dit.
C'est fabuleux. Enfin, je veux dire, tout est dit là-dedans. C'est quand même un spécialiste de l'ordinateur, de l'informatique, un ponte qui explique ça. En gros, dans cette phrase, moi, je lis une chose, c'est l'ordinateur, c'est un boulier 2.0. Quoi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Les Chinois, il y a 3000 ans, ils avaient un boulier. Nous, on a un ordinateur, c'est une machine à calculer et il ne faut pas la traiter autre chose que ça.
Bonjour Jean-Paul Delahaye.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes spécialiste en intelligence artificielle, professeur émérite à l'université Lille 1. Vous êtes d'accord avec ma citation de Gérard Berry, les ordinateurs sont assez stupides en somme toute?
Non, je suis pas tout à fait d'accord en fait. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Les ordinateurs ne sont pas faits pour faire certaines choses. Mm-hmm. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'ils font et qui font beaucoup mieux que nous. Alors dire qu'ils sont cons, je sais pas si c'est très judicieux. Par exemple, on sait bien, les ordinateurs jouent mieux aux échecs que nous. Bon, pendant longtemps, on a considéré que jouer bien aux échecs, c'est nécessité d'être intelligent. Donc voilà. Et je pense que il faut pas attribuer aux ordinateurs la capacité de résoudre n'importe quel problème. Aujourd'hui, on en est très loin. En revanche, pour un certain nombre de tâches bien précises et de plus en plus nombreuses, il faut quand même le reconnaître, ils sont parfaitement intelligents. Mais pour ces tâches limitées, spécialisées.
C'est quoi exactement un bug, Jean-Paul Delahaye? Parce qu'il y a beaucoup de questions de bugs dans le livre de Cyprien Sini. C'est quoi un bug?
Il y a plusieurs sortes de bugs. Un bug, on peut mettre un point virgule au lieu d'une virgule dans un programme et il va pas faire du tout ce qu'on veut, il va s'arrêter. Alors après, il y a des bugs qui sont beaucoup plus subtils où on va avoir l'impression que le programme marche et puis quand il arrive dans un certain cas particulier, il fait quelque chose qui n'est pas prévu et éventuellement il s'arrête. Ce qui est encore plus dangereux, c'est quand le bug conduit l'ordinateur à faire autre chose que ce qu'on voulait qu'il fasse. Mmh. Donc voilà, il y a diverses hiérarchies de bugs. Les plus embêtants, effectivement, ce sont ceux qui n'arrêtent pas l'ordinateur, parce que quand ça arrête le fonctionnement, on s'en aperçoit, on les corrige. Ce sont ceux qui sont cachés et qui font faire au programme qu'on a écrit quelque chose qu'on n'attend pas du tout, qu'on voit pas forcément d'ailleurs. Moi, ça m'est arrivé dans des travaux de recherche d'avoir un bug et de croire que quelque chose se produisait dans les expériences numériques qu'on menait. Or, en fait, c'était pas du tout le cas parce qu'il y avait un bug qu'on a fini par découvrir. Mais très longtemps, pendant très longtemps, on n'a pas compris que c'était un bug. Enfin, donc, il y a des choses qui sont cachées très profondément parfois dans les programmes et qui fonctionnent pas. Et on s'en aperçoit difficilement.
Rémi Houdguéry.
Oui, je pense que les bugs, c'est le reflet de notre dépendance. Plus il y a de bugs, plus on voit à quel point on est devenu dépendant du numérique. Mais j'ajouterais les bugs qui sont pirates, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des attaques régulières par des pirates de grandes entreprises qui peuvent bloquer durablement des systèmes informatiques. Et là, c'est quelque chose qui peut être très grave parce que pendant des jours et des jours, les gens se retrouvent au chômage technique. Donc c'est vrai qu'on voit à quel point et ces événements vont se répéter dans les années qui viennent. Hein, les bugs techniques et puis les bugs liés aux pirates informatiques et ça va compliquer sacrément la vie des gens.
D'ailleurs, est-ce que c'est pas lié finalement ? C'est-à-dire que plus vous mettez de choses sur Internet ou sur les ordinateurs, plus vous leur faites confiance Et plus vous mettez d'informations dessus, plus ils vont attirer les pirates et donc créer des bugs et créer des soucis.
C'est pour ça que moi j'avais écrit déconnectez-vous, c'est qu'il faut garder un certain secret de sa vie.
On n'a plus le choix.
Je pense que si, on peut avoir le choix. Et d'ailleurs, dans les derniers mois, il y a eu pas mal de gens qui ont retiré leur profil personnel d'un certain nombre de réseaux sociaux parce que cette prise de conscience, elle commence à se faire.
Quand même. Oui, même professionnellement, je parle des banques, etc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, vous le disiez, on fait de plus en plus nos opérations bancaires par Internet, grâce au numérique. Et donc tout ça fait que quand là les GAFA, par exemple, lorgnent aujourd'hui sur les opérations bancaires, quand les GAFA seront aussi propriétaires de votre banque, qui sauront ce qu'il y a sur vos comptes, comment vous gérez vos comptes, plus tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ils seront toute votre vie en fait.
Mais là, c'est plus une question numérique, c'est du politique. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il va falloir arrêter la machine, mais
ouais. Les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Jean-Paul Delahaye.
Oui.
Vous vouliez réagir?
Oui, je disais, quand il s'agit d'attaque ou quand il s'agit d'espionnage ou de vol de données, et en particulier par la NSA, l'entreprise américaine, l'agence américaine qui espionne un petit peu tout le monde dans le monde entier, on n'appelle pas ça en général des bugs, c'est tout, ce sont des conséquences du développement de l'informatique et de la puissance et de l'autorisation qu'ont obtenue ces agences d'espionner le monde entier, c'est autre chose. Les bugs, c'est ce qu'on appelle les bugs individuellement, ce sont les erreurs qui sont commises, un cas qu'on n'a pas prévu, un point virgule remplacé par une virgule, ou des choses comme ça. Maintenant, il est certain que les plus grands problèmes que nous allons rencontrer dans l'avenir proche, ce sont ces problèmes liés au vol de données, au regroupement de données, donc, et puis les problèmes liés aussi aux attaques dues à des gens qui veulent vous voler de l'argent, oui. Qui veulent voilà, donc là il y a un risque et une multitude de risques qui vont se développer. En particulier les objets internet, donc ce qu'on appelle l'IoT, vont créer une multitude de nouveaux problèmes.
Avons-nous tendance à déifier l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle issue de cerveaux humains, Jean-Paul Delahaye?
Oui. Aujourd'hui, il y a un excès concernant les qualités ou les capacités qu'on attribue à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est une multitude de domaines, d'ailleurs, qui sont plus ou moins séparés et qui réussissent des choses spécialisées très bien. Je parlais du jeu d'échecs, le jeu de Go, il y a un certain nombre d'aides à la traduction automatique qui sont réellement utiles. Il y a toutes sortes de choses qui sont liées à l'intelligence artificielle et qui fonctionnent très bien. Mais à chaque fois, ce sont des choses très spécialisées. Et aujourd'hui, une intelligence artificielle qui aurait conscience d'elle-même, qui aurait de l'humour, etc., ça n'existe pas. Mmh.
Restez avec nous, Jean-Paul Delahaye. N'hésitez pas à réagir tout au long de notre émission. Quand le numérique nous complique la vie, racontez-nous vos expériences, vos déboires avec ces outils pas toujours futés au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Le jour se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer.
Lerita Mitsuko, Ding Dong Dong.
Oulala, je capte mal la Wi-Fi. Peut-être redémarrer la pasta box.
Grand bien vous fasse.
Ah mais tu sais que moi aussi je vais sur le Facebook.
Sur France Inter.
10h22, quand le numérique nous complique la vie, au lieu de nous la faciliter, avec le journaliste Cyprien Sini qui publie « Nos ordinateurs sont très cons » et avec le sociologue Rémi Oudguiri, j'aimerais vous lire un mail de Greg. « Je me bats depuis 3 ans pour modifier mon adresse de résidence fiscale auprès des impôts, sans succès. J'ai effectué la modification sur ma déclaration d'impôts et elle n'a pas été prise en compte. Lorsque je contacte mon centre des impôts, il me renvoie vers mon espace en ligne, sur mon espace en ligne. Impossible de faire la modification. J'ai saisi 2 fois le conciliateur fiscal qui se dit incompétent. Au final, rien n'a changé, je continue à m'arracher les cheveux. Cyprien Sini.
Ça, c'est un exemple qu'on pourrait mettre dans mon livre, hein,
oui.
Dans le prochain. Non, c'est vrai qu'il y a, en fait, c'est la dématérialisation à marche forcée, ouais, qui a été imposée ces dernières années, qui fait que il y a parfois des bugs.
Il y a 7 salariés, par exemple, qui doit passer par la case ordinateur pour faire valoir ses points pénibilité.
Ouais, alors elle le fait, elle passe par la case ordinateur, elle saisit ses points pénibilité, et au moment où elle appuie sur entrée, elle s'aperçoit qu'en fait elle a mal saisi une donnée. Donc là, elle s'en aperçoit dans la seconde, hein. Donc il faut revenir en arrière, et le problème c'est qu'elle ne peut pas revenir en arrière, parce qu'elle a appuyé sur entrée, et que c'est trop tard, c'est un peu comme si vous aviez pris la décision de votre vie. Donc là, elle appelle l'organisme en question, elle finit par avoir quelqu'un au téléphone, qui lui dit « Ah, mais vous avez appuyé sur entrée ?» Eh ben c'est trop tard, c'est irréversible, irréversible, vous vous rendez compte ? Donc elle est obligée de faire appel au défenseur des droits, qui lui-même a saisi l'administration compétente, et on a réexaminé son dossier. Mais ça a fait des démarches énormes, alors que c'est censé nous faciliter la vie et éviter les irritants.
L'erreur est humaine, mais elle n'est pas admissible par nos ordinateurs. Jean-Paul Delahaye, je vous rappelle que vous êtes spécialiste en intelligence artificielle.
Oui, alors dans le cas qui était évoqué à l'instant, je pense que c'est quand même pas une erreur de l'informatique, c'est une erreur de la conception du logiciel qui rend irréversible l'entrée d'une donnée, et puis de l'administration qui a mis au point ou contribué à mettre au point ce logiciel et qui a rendu impossible de corriger l'erreur. L'informatique n'y est pour rien. L'informatique dans cette histoire-là, c'est juste un outil qui est mal utilisé ou qui est utilisé par des gens qui sont, incompétents ou un petit peu irresponsables de créer des situations comme ça irréversibles. Ouais. Donc c'est pas l'ordinateur qui est responsable ici.
Ouais, mais derrière chaque ordinateur, il y a un programmateur. Donc après, c'est pour ça que je dis que les ordinateurs sont très cons d'ailleurs, c'est qu'ils sont la résultante d'un travail humain.
Oui, mais je suis d'accord avec cette idée-là. Il y a des humains derrière. Bon, alors, maintenant, quand on parle d'application en intelligence artificielle, d'une certaine façon, on écrit un programme, on le met au point, on le perfectionne, et après, l'ordinateur devient en quelque sorte un petit peu autonome. Quand vous faites une partie d'échecs contre un ordinateur, il n'y a plus personne qui intervient pour modifier le programme. Le programme analyse les situations, analyse vos coûts, etc. Donc, il y a effectivement des choses comme des applications de type administrative où le programmeur, en quelque sorte, il est tout prêt. C'est-à-dire que sa responsabilité est directement engagée dans la façon dont il a conçu le programme. Et puis, il y a des applications où, en quelque sorte, on donne une certaine autonomie au programme et à l'ordinateur. Et à ce moment-là, on peut dire, à ce moment-là, si ça fonctionne mal, que l'ordinateur est con. Mais c'est autre chose.
Rémi Guéry.
Ce sont des situations qui ne sont pas tout à fait comparables.
Rémi Guéry, je rappelle que vous êtes sociologue.
Oui, les données d'enquête dont on dispose depuis plusieurs années montrent que plus on avance dans la dématérialisation des pratiques, et plus les gens expriment une nostalgie de l'humain. Et ça, c'est vraiment frappant. Ce qui veut dire une chose, c'est que les machines, oui, on en veut, mais il nous faut absolument des humains pour nous accompagner. Et souvent, cet accompagnement, il est oublié par les entreprises qui mettent en place ces services. Et souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles mettent des robots à la place des humains pour accompagner. C'est une erreur magistrale, en tout cas aujourd'hui, parce que ces robots sont absolument pas au point, et de toute façon, à la fin des fins, il n'y a qu'un être humain qui peut s'adapter de façon souple à une demande, les exemples de Cyprien Sini sont assez éloquents, pour essayer de résoudre ces problèmes-là.
C'est assez amusant de voir à quel point on peut regretter la caricature du fonctionnaire qu'on n'aimait pas avant, qui fermait le guichet à midi, enfin vous voyez, toutes ces caricatures-là qu'on faisait dans les années 70 ou 60, aujourd'hui on les regretterait pas, parce que finalement le fonctionnaire en question qu'on n'aimait pas, il était moins buté que l'ordinateur ou que la machine quand elle ne marche pas.
D'autant qu'il faut rappeler que dans les magasins aujourd'hui, il se produit le même phénomène, il y a de moins en moins de gens, de vendeurs, de conseillers, etc. Ils sont remplacés par des bornes, par des tablettes, etc. Et c'est vrai que c'est devenu de façon rapide, un peu brutale, et les gens se retrouvent un peu face à des machines dont ils ne savent pas trop que faire.
Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. J'ai consulté mon appli EDF pour consulter ma consommation d'électricité, qui indiquait une consommation absolument effrayante, effarante, et il a fallu que j'appelle un être humain, un service client, qui m'a rassuré en me disant que c'était l'appli qui s'était totalement trompée. Ouais. Et donc, qui a calmé mon anxiété face à cette...
Et vous n'avez pas eu à payer, rassurez-vous.
Non, pas du tout, non, bien heureusement. Jean-Paul Delahaye.
Oui, je voulais dire à ce sujet-là que, là, à nouveau, c'est pas réellement l'informatique qui est en cause. Mmh. Ce qui est en cause, c'est qu'aujourd'hui, on veut économiser sur l'humain, c'est-à-dire parce que les salaires coûtent cher, avoir des humains qui répondent au téléphone, ça coûte plus cher que de mettre des machines. Et donc, aujourd'hui, l'informatique, en quelque sorte, est tellement efficace ou suffisamment efficace pour qu'on envisage dans certaines applications de supprimer des humains pour les remplacer par des machines. Alors comme effectivement c'est un petit peu limite et que ces machines sont pas parfaitement au point, que les systèmes sont pas parfaitement au point, l'utilisateur n'est pas satisfait. Mais la raison principale pour laquelle les humains disparaissent de nos interfaces et des contacts qu'on a avec les entreprises ou les administrations, c'est une histoire de coût. C'est une histoire de coût des salaires.
Thierry a acheté sa voiture en novembre dernier à un particulier. 4 mois plus tard, il attend encore les papiers. Pourtant, en France, la carte grise est obligatoire pour tous les véhicules qui circulent sur le territoire. Les propriétaires ont 1 mois après l'achat pour faire la démarche. Une démarche qui, à présent, se fait uniquement en ligne. Alors qu'avant, il fallait aller à la préfecture, aujourd'hui, il faut désormais se connecter au site de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Seulement, depuis le 6 novembre et la mise en place de cette nouvelle procédure, rien ne s'est passé comme prévu.
Extrait de la quotidienne sur France 5 en 2018. Alors Cyprien Sini, rien ne s'est passé comme prévu. Le 6 novembre 2017 restera une des grandes dates dans l'histoire des formalités administratives.
Ah ouais, ça devait être la magie. Mmh. Ça devait être formidable. Ça devait être la carte grise en deux clics, comme pouvait le dire à l'époque. Non, et en fait, grosso modo, le système avait été testé dans des petites régions et à petite échelle. Et quand on l'a mis en place à l'échelle nationale pour faire toutes les cartes grises du pays, ça a complètement buggé, mais explosé. À tel point, en fait, qu'on a été obligé de rapatrier les fonctionnaires de l'époque qu'on avait virés, en fait, qu'on avait mis ailleurs, pour leur faire remplir des papiers. Et aujourd'hui encore, les cartes grises ont beaucoup de retard. En 2019, au début de l'année, l'État a été obligé de mettre en place un système particulier pour les entreprises, parce qu'il y a carrément des gens qui étaient allés à deux doigts de mettre la clé sous la porte, parce que les cartes grises n'arrivaient pas. Et donc, et aujourd'hui encore, on a du retard, surtout pour les particuliers.
Je vous propose d'écouter un autre exemple tiré du JT de 20h de TF1 en avril 2018.
Le service terminé, ce jeune homme de 18 ans prend quelques minutes pour allumer son ordinateur portable. Il a besoin d'un document administratif en ligne sur le site web de sa faculté. 2 mois qu'il essaye et il va nous le prouver.
Avec PJWeb. PJWeb, déjà, je sais pas ce que c'est. Éditeur de texte collaboratif. Alors après, on peut cliquer sur le bouton aide, mais je crois que c'est pire. Déjà, il n'y a rien qui s'affiche, c'est génial.
Face à une administration française parfois kafkaïenne, des associations se substituent à l'État et viennent en aide à ceux qui n'y arrivent pas. Ici, la fréquentation a doublé en 4 ans. Claude vient pour son dossier de sécu.
Il me faudrait votre identifiant et votre code.
Tout ça, je ne l'ai pas.
Claude a 75 ans, il n'a jamais eu d'ordinateur.
On a toujours parlé à des humains et de parler à des robots, ça nous est difficile. Mes enfants sont tous à l'étranger. Et de temps en temps, un ami, quand c'est un truc vraiment très important, mais je ne peux pas déranger mes amis perpétuellement pour des problèmes d'ordinateur.
Cyprien Sini, vous buvez du petit lait.
Ah bah, non, mais j'ai l'impression de lire mon livre en écoutant la radio. Ça
j'ai lu votre livre. Rémi de Guiry.
Oui, c'est intéressant parce que on voit bien qu'il y a deux choses. Il y a une fracture générationnelle parce que évidemment, plus on est âgé, moins on a baigné dans cet univers-là. Donc c'est plus compliqué. Et ça, on l'oublie souvent. Des choses qui nous paraissent simples, qui paraissent simples plus jeunes. Mais ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans les témoignages, c'est que les plus jeunes sont victimes également de ça. Et c'est ce que nous on voit dans nos enquêtes. Ils ont les mêmes problèmes à un moment donné. Ils n'arrivent pas à naviguer. Ils ont beau être jeunes, ils ont beau être nés là-dedans, comme on dit, ils ont beau être natifs digitaux. Il n'y arrive pas.
Non, mais quand le système est mal fait, que vous vous heurtez à un mur, quel que soit l'âge, au bout d'un moment, quand vous n'avez pas un humain avec qui vous pouvez discuter pour essayer de trouver une solution, un ordinateur, ça ne négocie pas. Donc quand ça ne marche pas, ça ne marche pas.
Bonjour Nicolas Canonou. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur de la promotion de l'égalité de l'accès aux droits auprès du défenseur des droits, Jacques Toubon. Vous appelez le gouvernement à respecter le droit des usagers dans la dématérialisation des formalités administratives.
Oui, tout à fait. Nous, chez le défenseur des droits, nous avons publié un rapport en début d'année, en début 2019, sur cette question, à la suite de l'exemple de la dématérialisation des cartes grises dont vous avez parlé, où ici on reçoit on a reçu à cette occasion-là des milliers de réclamations d'usagers du service public qui se retrouvaient dans des situations inexplicables. Donc vous avez déjà donné cet exemple, donc je reviens pas dessus. Mais le rôle du défenseur des droits, l'une de ses missions, c'est de défendre les droits des usagers dans leurs relations avec les services publics. Et la dématérialisation rapide, hein, puisque le gouvernement souhaite que l'ensemble des procédures soient dématérialisées en 2022, ça pose toute une série de difficultés aux Français, aux usagers du service public. Et donc, nous avons fait un rapport pour appeler l'attention du gouvernement, des autorités, des autorités qui pilotent ces services publics et qui pilotent ces opérations, afin qu'elles prennent en compte ce que nous, on voit de là où on est, c'est-à-dire la grande difficulté d'une grande partie des Français à avoir accès aux services publics et donc à leurs droits, parce que quand vous pouvez pas toucher votre RSA quand on vous le coupe parce que vous avez pas lu un mail, vous vous retrouvez dans une situation où vos droits ne sont pas respectés.
Laurent nous dit l'État devrait mettre en place un service public du numérique pour garantir à tous les citoyens l'accès continu, simple et pratique aux moyens numériques.
Oui, je pense que ce serait sans doute une bonne direction. Après, la difficulté, c'est que c'est l'ensemble des procédures, donc ça concerne tous les secteurs de la vie. Là aujourd'hui, l'État est en train de dématérialiser plus de 250 procédures, et ça va de des plus connues, hein, de celles qui existent déjà, Parcoursup, demander son RSA, etc., etc. À des choses qui concernent les professionnels, qui peuvent concerner l'accès à la justice. Donc c'est des choses importantes. Et ce que nous on perçoit et ce que nous on dit dans ce rapport et puis qu'on continue à répéter depuis, c'est que aujourd'hui il y a 20 à 25% des gens qui ne sont pas capables, enfin qui ne sont ou ne se sentent pas capables d'utiliser ces outils. C'est 13 millions de personnes, ce n'est pas rien. Et au-delà de l'accompagnement qu'il faut mettre en place et qui est indispensable, il y a aussi certaines catégories de la population qui sont encore plus, si j'ose dire, écartées du service public. Aujourd'hui, il y a 5% des sites publics qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Ce sont des millions de personnes.
Et puis Nicolas Canonou, il y a tous ces concitoyens qui souffrent de cette dématérialisation. Je pense à tous ceux qui habitent dans des zones blanches, ce monde ignoré, où l'on n'a pas accès à Internet. Selon une enquête de Que Choisir, citée dans votre livre Cyprien Signy, 500 000 personnes, 500 000 de personnes souffrent de ces zones blanches.
On peut ajouter à la question des zones blanches le fait que être connecté à Internet, souvent pour des procédures, ça ne suffit pas. Parce que il faut pouvoir transmettre des documents, donc il faut pouvoir les scanner, donc il faut avoir un scanner ou avoir quelqu'un, connaître quelqu'un qui en a, etc., etc., etc.
Ouais, et puis il faut aussi, je rajoute le concept de zone grise, c'est-à-dire que il faut aussi avoir internet suffisant, un débit suffisant pour pouvoir envoyer des mails avec des pièces jointes. Et ça, si vous ajoutez la zone grise à la zone blanche, vous arrivez à 10% de la population française. Donc ça devient, c'est près de 6 millions de personnes quand même, ça devient énorme. Donc, et ça c'est effectivement pour toutes les démarches administratives où on demande d'attacher des pièces, par exemple une copie de votre passeport ou de votre permis de conduire, ça devient impossible.
Rémi de Guiry.
Oui, ce problème des zones blanches, il est évident. L'accès à la vie numérique, ça devrait être un droit de l'homme aujourd'hui. On sous-estime le fait que c'est devenu aujourd'hui pour la plupart des gens vital en réalité. couper Internet de la plupart des gens, ils se retrouvent du jour au lendemain sans travail, sans rémunération, sans possibilité de vivre dans notre monde. Donc ça devrait être absolument une mission de service public.
Et ce qui est terrible dans ces zones blanches, ces zones grises, c'est que c'est un peu la double peine, parce que ce sont des zones qui sont souvent en campagne, un peu retirées, donc c'est déjà là où les services publics ont déserté, où vous vous retrouvez à devoir faire plusieurs kilomètres en voiture pour aller à la poste, etc. Donc en plus, la double peine, c'est qu'ils n'ont même pas accès à ce numérique-là qui aurait pu les sauver ou les dépanner.
En quelques mots, Nicolas Canounou, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que le rapport que vous avez remis au gouvernement préconise?
Alors, nous, ce qu'on préconise, on a beaucoup de préconisations. J'insisterai simplement sur la plus actuelle, qui est l'accompagnement des usagers. Mmh. Puisque le gouvernement va déployer en janvier ce qu'il appelle France Service, hein, mmh. qui est une série de structures qui sont destinées à accueillir les usagers. Nous, ce qu'on dit, c'est très bien de développer ce genre de service, mais il faut que ce soit des services qui rendent effectivement le service attendu, c'est-à-dire que les personnes qui auront recours à ces services soient accueillies non pas par quelqu'un qui leur dit « Regardez, vous avez un ordinateur, débrouillez-vous », ou « On va vous expliquer comment marche une souris », mais que leurs problèmes réels puissent être réglés dans ces structures. Ça veut dire que il faut que ces structures aient accès aux dossiers des personnes, qu'elles aient le temps que les agents d'accueil soient formés, qu'ils aient le temps d'expliquer les choses et de prendre en compte la situation concrète et réelle des usagers. Et au-delà de ça, nous plaidons pour un accueil multicanal, c'est-à-dire pour la possibilité tout le temps pour l'usager de choisir de ne pas passer par une procédure dématérialisée et donc de pouvoir appeler quelqu'un qui soit lui aussi formé, parce que c'est aussi un problème, hein, et de pouvoir avoir le choix de son mode de relation avec l'administration, ce qui permettra que dans des situations où, vous en avez parlé, hein, où les logiciels sont mal pensés, mal conçus, mal déployés, où ils ne sont pas accessibles, finalement l'usager se retrouve à un moment seul avec son ordinateur, et bien dans toutes ces situations-là, il faut qu'il puisse avoir un contact direct avec l'administration, avec une personne
Merci.
Qui règle son problème.
Merci voilà. beaucoup Nicolas Canounou d'être intervenu ce matin. Alors, dans quelques instants, nous verrons s'il faut avoir confiance dans les voitures autonomes conduites par l'intelligence artificielle. Je sens que vous ne montrez jamais Cyprien Sini dans une voiture autonome. En attendant, il est temps de retrouver Julia Foyce, pas son genre.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
C'est un garçon ou c'est une fille?
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'es un garçon?
T'as menti?
Bah oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà.
Bonjour Julia Foyce.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Alors, une nouvelle accusation de viol contre Roman Polanski cette semaine. La semaine dernière, c'était Christophe Rudja, accusé d'attouchement et de harcèlement sur mineurs par Adèle Haenel. En octobre, Luc Besson faisait lui aussi l'objet d'une nouvelle plainte. Quant à Tariq Ramadan, c'est cet été que s'est ajouté à ces deux mises en examen pour viol, une plainte pour viol en réunion. Mais vous, Julia Foyce, ce matin, vous avez une pensée pour les autres, toutes celles que la justice, pour l'instant, tous ceux que la justice, pour l'instant, a épargné.
Toi qui, depuis des mois, sens comme le vent tourner, toi qui essuies depuis des semaines sur ton front quelques gouttes de sueur qui commencent à perler parce que les femmes, elles, se mettent à parler. Toi, dont ces derniers jours le cœur s'emballait parce que cette fois la justice les suivait. Tu n'as pas à t'inquiéter. En France, dans 99% des cas, les violeurs s'en sortent, tu sais. Alors oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est le 1% de condamnation qui te fait flipper. Je te comprends, à ta place, j'aurais du mal à dormir tranquille. Mais alors regarde un peu, comme dirait Bruel, ceux qui t'ont précédé, et fais exactement comme eux. D'abord, tu te tais, tu fais silence, tu fais mystère, tu fais menace. Joue là comme Polanski, envoie ton avocat dire au grand public que tu prépares ta riposte juridique, mais surtout n'ajoute rien, pas de détails. Pour le bétail, ignore les questions, laisse retomber la pression. Ça peut prendre du temps, c'est vrai, 6 mois de détox médiatique pour Besson, 2 ans pour ta récréation. ramadan, mais promis, il viendra le moment. Un jour, tu sortiras du bois et tu le feras en grand avec, je sais pas, un pamphlet, un essai, une autobiographie. Oui, c'est bien, ça donne un peu de toi. Révèle-nous tes fêlures, dis-nous tes failles, ton enfance solitaire, douloureuse et ce besoin au fond si naturel d'être aimé. Ça, c'est dans Enfant terrible, c'est signé Besson et c'était le mois dernier. Un mois avant, ramadan sortait Le devoir de vérité, autrement dit, je cite, le cheminement d'un homme aussi humain que vous que la société a diabolisé. Mais attention, ajoute-t-il, en 1894, la France, unanimement, avait tort contre Dreyfus. Ah ben alors voilà, lui. C'est rigolo, hein? Ouais, mais lui, c'est toi, et toi, c'est lui. Et que, dans l'esprit de tous, ressurgisse alors le spectre de l'erreur judiciaire, de l'innocent jeté en prison, de la tâche indélébile sur l'âme d'une nation coupable, selon les affaires, selon les époques, d'antisémitisme, d'islamophobie, ou de cinéastophobie, allez savoir. En tout cas, coupable, on a dit. Et ça, c'est très, très important. Je sais pas si tu sais, mais tu risques quand même 15 ans de prison avec tes histoires, alors écoute-moi bien. Toi, quand tu te mets à parler, tu es la victime, ok? D'ailleurs, ça se voit quand tu passes à la télé, tes joues se sont creusées, les cheveux ont blanchi, tu as perdu du poids, le malheur qui te frappe, tu emportes les stigmates. Et comme on n'est pas des hyènes, on est touché au cœur, tu vois. Alors vas-y maintenant, envoie tous tes gros mots qui font peur. Tu diras emballement, tu diras acharnement, c'est un lynchage médiatique, un tribunal populaire, c'est la vindicte d'une opinion qui a demandé ta tête. Soigne l'image, choisis tes mots et hurle-les bien comme il faut. Mon exclusion sociale est en cours, le Moyen-Âge avait inventé la peine du pilori, mais c'était la sanction d'un coupable qui avait été condamné par la justice. Maintenant, on dresse hors de tout procès des piloris médiatiques tout autant crucifiants et douloureux, et aujourd'hui, c'est à mon tour de les subir. C'est beau, hein? C'est du Christophe Rouja. Contrit, meurtri, mal compris, il avait juste voulu jouer les Pygmalions avec une petite herbe folle dont seul il décelait le talent. C'était une erreur et il s'en veut de ça. Fais comme lui, bat ta culpe, flagelle-toi, faute avouée, à demi pardonnée, tu le sais, alors reconnais des écarts de conduite, des infidélités, regrette, comme dirait Besson, des gestes gentils et tactiles qui ont pu incommoder. Il n'a pas tort, hein, remarquer une pénétration anale, ça peut incommoder, surtout quand elle n'est pas consentie. Bref, amoindri, euphémise, diminue et puis conclut, comme dirait Ramadan. Si on peut avoir des défaillances morales, ça ne veut pas dire qu'on est coupable au plan pénal. Parce que le viol, ça non, non, pas toi. Ça c'est un mensonge, c'est de la calomnie. Toi, tu détestes la violence. Toi, tu aimes les femmes, la preuve ? T'en as une, de femme. Au besoin, tu l'as fait poser dans Gala, et six fois, tu l'aides même à débarrasser, parfois. À elle, tu demandes pardon, à celle qui t'accuse aussi. D'ailleurs, martyr, sacrificiel, tu en deviens presque christique à force. Pardonnez-leur, parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Pardon, Adèle et Nel, si j'ai pu être pénible. Pardon, Sand Van Roy, mon petit rayon de soleil. Pardon, Samantha Gamer, pour avoir bouleversé ton existence. Ouais, Polanski lui a écrit. Désolée, j'ai un peu déconné, c'est vrai, je ne savais pas. J'avais 30 ans de plus que toi, j'avais le pouvoir, j'avais la force. Mais je te jure, j'ai pas compris que tu voulais pas. Tu as dit non, t'es sûr? Fallait le dire plus fort que ça. À mon âge, tu sais, parfois on n'entend pas. Par contre, les gars, faites gaffe, il y a quand même un moment où ça va finir par se voir. Hein.
La chronique Pas son genre de Julia Foyce à revoir en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand à vous face. Pas son genre, c'est également le vendredi à 20h.
Oui, vendredi à 20h, on va se poser la question, et si au fond la religion n'aimait pas les femmes? Voilà.
Vaste question, oui, ma chère Julia Foyce. Allez, on continue à s'intéresser à ces écrans et logiciels qui peuvent nous compliquer la vie quotidienne. 01 45 24 7000. We'll be right back. Nouveau titre de Michael Kiwanuka, Hero.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse sur France Inter.
10h47, quand le numérique complique notre vie quotidienne, avec le journaliste Cyprien Sini et le sociologue Rémi Oudguiri, et avec le spécialiste en intelligence artificielle Jean-Paul Delahaye. Cyprien Sini, j'aimerais qu'on s'attarde sur le fait que nos écrans intelligents, nos ordinateurs n'ont pas fait médecine. et nos ordinateurs raffolent de notre cyberchondrie. La cyberchondrie, c'est notre propension à devenir anxieux à mesure que l'on consulte Internet pour rechercher des informations médicales. Si je tape rougeur sur le bras, sur un moteur de recherche.
Essayez, vous allez voir. Je suis sûr que vous avez déjà essayé.
Oui, plusieurs centaines de milliers de réponses vont apparaître. Nos machines font assez mal le tri dans les réponses qu'elles vont nous délivrer.
Bah, elles sont pas là pour faire le tri, en fait. Elles sont exhaustives. Donc, vous tapez un symptôme sur Internet et donc les sites de santé, dits de santé, vous donnent à peu près toutes les maladies que vous pouvez avoir avec ces symptômes, et qu'en fait, n'importe quel symptôme peut déboucher sur un cancer. Par exemple, vous avez toujours un cancer. Donc, il faut surtout essayer de se contenir. Mais c'est plus fort que nous. Donc, je pense que c'est nous qui raffolons ça, et on se dit surtout, je vais pas regarder sur Internet, surtout, je vais pas regarder sur Internet, et on y va à chaque fois.
Et n'oublions pas que ces recherches d'informations peuvent provoquer un effet nocebo, l'inverse de l'effet placebo. Ah,
c'est quelque chose qui s'est développé grâce à Internet, ça, justement. Mmh. Effectivement, c'est-à-dire que vous développez des symptômes qui n'existent pas parce que vous les avez lus sur Internet.
Nocebo veut dire je nuirai. Puis, si je posais la question à tous les médecins que nous recevons dans cette émission, je pense que l'écrasante majorité nous dirait que la recherche d'informations médicales sur Internet modifie la relation patient médecin Rémi Oudguiri.
Oui, et puis il y a quand même une demande. Il y a beaucoup de gens qui ont... Alors, il y a déjà des raisons de simplification. Le dossier médical, facilement accessible, parce que c'est vrai que parfois, c'est compliqué pour les remboursements, etc. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui suivent leur santé via des applications. Donc là, il ne s'agit pas seulement d'aller sur un moteur de recherche, mais c'est une tendance qui se développe, et à mon avis, dans les années qui viennent, ça va encore se développer. Avec la limite de l'exercice, c'est qu'on n'est pas médecin soi-même, et qu'il y a à un moment donné un juste équilibre à avoir entre ce qu'on est capable de faire nous-mêmes, nos propres diagnostics, et puis l'autorité médicale.
Là, c'est ce qu'on demande à l'ordinateur. C'est-à-dire que quand on a une maladie ou des symptômes, on a absolument envie de savoir, on va regarder sur Internet, et en fait, quand on arrive dans le cabinet du médecin, on a déjà une idée préconçue de ce qu'on a, on connaît même les médicaments, la posologie, et en fait, le médecin se retrouve désarmé pour vous expliquer qu'en fait, non, c'est pas ça, et ça a changé le rapport patient-médecin.
En attendant, on va s'intéresser à la voiture autonome. Écoutons un extrait de BFM TV en 2015.
Je peux lâcher les mains du volant et je ne m'occupe plus non plus des pédales. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ralentissement devant nous et vous allez voir que le véhicule va s'arrêter tout seul puisque je ne fais absolument rien.
La voiture utilise à la fois un GPS, des radars et une caméra pour se positionner sur la route et se déplacer au milieu des autres véhicules sans les heurter.
Voilà, donc là il voudrait doubler. Bon, le problème c'est que j'ai des voitures sur la gauche, donc il va pas doubler. C'est pour ça, c'est ce qu'on voit, la petite flèche verte effectivement. Donc bon, pour l'instant on patiente.
La voiture autonome conduit presque comme un automobiliste. Alors je dis presque parce que on sent encore parfois des petites corrections de trajectoire pas très fluides. Mais surtout, ce qui change, c'est que cette voiture attend les conditions idéales avant de doubler. Elle respecte, elle, les distances de sécurité et les limitations de vitesse.
Cyprien Sidney, je sens que vous faites modérément confiance aux voitures autonomes, bourrées d'intelligence artificielle.
Non, mais c'est-à-dire que le système, enfin déjà, psychologiquement, il y a un vrai gap, il y a un cap à franchir avant de monter dans une voiture et de rien toucher, ça fait déjà très peur. Ensuite, vous confiez votre vie, là, quand on parlait de bugs tout à l'heure sur les impôts, sur les cartes grises, ok, je veux bien, mais là, si c'est le bug des freins, là, les conséquences sont plus les mêmes. Donc, effectivement, et on l'a vu, les essais qui ont été faits, régulièrement, on entend parler de problèmes. Alors, effectivement, il y aura moins de problèmes si tout le monde roulait en voiture autonome, comme 90% des erreurs sont humaines aujourd'hui quand vous avez des accidents. Il y aura moins d'accidents, il y aura moins de morts. Mais en revanche, vous n'avez aucune chance de vous en sortir,
mais
c'est plus de votre faute.
En cas d'accident, les voitures autonomes vont être confrontées à des tas de dilemmes moraux hein, que ne renierait pas le regretté philosophe ruyanogien. Par exemple, une voiture autonome esquive un chat. Elle fait une embardée, la voiture percute le trottoir et doit procéder à un choix. Est-ce que je prends un exemple dans votre livre?
En fait, c'est un vrai problème qu'ont les concepteurs et qu'il va falloir résoudre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le choix entre, pour éviter l'accident et de mourir, vous écraser une personne âgée? Est-ce que vous choisissez quoi? Vous cochez quoi avant de choisir? Pareil, vous avez le choix entre écraser une personne âgée ou écraser un enfant. Vous choisissez quoi? C'est pareil, ce sont des gestes qui se feront instinctivement si on est au volant, on n'aura pas choisi. En revanche, là, on va vous demander de choisir en amont pour programmer l'ordinateur qui conduira.
Pouvez-vous nous parler de Moral Machine, initié par le CNRS et le prestigieux MIT, hein, l'Institut de Technologie du Massachusetts? Sur ce site internet, des internautes du monde entier ont répondu à un questionnaire de moralité, entre guillemets, impliquant d'un côté voiture et passagers, de l'autre, toutes sortes de piétons, des enfants, des chats, des femmes enceintes, des délinquants. Et face à ces dilemmes moraux, qui vous sacrifiez? Et ça, c'est important ce questionnaire parce que ça va permettre de paramétrer les voitures autonomes, ouais, les paramétrer par défaut.
C'est-à-dire que les chercheurs ont imaginé ce que ça pourrait donner et donc ils ont fait des sondages un peu partout en demandant aux internautes. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que les résultats sont pas pareils en fonction des régions du monde, par exemple. C'est-à-dire que en Occident, on va privilégier les enfants. Dans les pays du Sud, on privilégiera peut-être plus les personnes âgées. Vous voyez, en revanche, il y a une espèce de consensus pour sacrifier l'animal au détriment de l'être humain, ce qui est plutôt rassurant.
Rémi Houdguiry.
Je pense qu'au-delà des dilemmes moraux, l'exemple de la voiture autonome montre la limite un petit peu de tous ces objets connectés dont on nous annonce depuis des années qui vont s'imposer dans notre quotidien.
Dans nos maisons notamment.
Dans nos maisons. Mais déjà sur la voiture, on nous disait en 2020 qu'elles allaient être monnaie courante. Le rêve recule d'année en année. Maintenant, il est extrêmement lointain. Dans nos maisons également, ça fait maintenant des années qu'on nous annonce la maison connectée.
La domotique.
Et en réalité, ce qu'on voit nous dans nos enquêtes, c'est que ces rêves s'éloignent. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord aucune utilité réelle de ces objets-là dans la maison aujourd'hui. Ça n'améliore rien du tout. Il y a un côté gadget. Il y a des problèmes de sécurité dont Cyprien a parlé. Et puis, il y a aussi la maison espion. C'est-à-dire que plus vous connectez votre maison via des objets soi-disant pour vous aider dans vos tâches pratiques, cuisine, etc., plus vous multipliez le nombre d'espions. Et on a vécu ça avec les fameux assistants vocaux type Google, Alexa, etc. On s'est aperçu que ces interfaces enregistraient un tas de nos conversations, de nos gestes, de nos comportements. Les gens commencent à prendre conscience de ça et ça leur fait peur. Donc la maison, c'est un lieu qui va être... Les gens vont essayer de la préserver.
Mais d'ailleurs, sur la voiture autonome, de plus en plus de spécialistes du secteur automobile vous disent que le salon roulant qu'on nous a vendu pendant des années, a priori, n'est pas prêt de voir le jour. Mais parce que techniquement... On est à peu près capable de faire une voiture autonome qui fonctionne, qui est fiable à 90%, mais les 10% qui restent, c'est un drame. Donc effectivement, et puis la barrière psychologique, c'est un vrai frein pour les constructeurs qui investissent de moins en moins du coup.
Cyprien Sidney, dans votre livre et dans la vraie vie, vous trouvez l'application Waze assez bête.
Ouais, c'est-à-dire qu'elle crée des embouteillages.
C'est un GPS intelligent censé nous éviter les bouchons.
Ouais, et ce qui est formidable, c'est que j'utilise donc au quotidien. Mais il y a des chercheurs américains qui ont mené une étude empirique là-dessus. C'est-à-dire que si 20% des personnes autour de vous utilisent le même logiciel de navigation que vous, eh ben en fait, là, ça crée des embouteillages ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé plein de fois dans plein de villes, notamment je parle dans le livre de l'exemple de Lieusaint en Seine-et-Marne, qui est devenu un itinéraire de délestage de la Francilienne, qui est la grande autoroute qui tourne autour de l'Île-de-France. Et c'est un village qui n'était pas fait pour absorber autant de voitures et qui s'est retrouvé avec des voitures pare-choc contre pare-choc tous les matins. Et c'est devenu un drame absolu, à tel point que le maire, pour éviter que ça devienne un itinéraire de délestage, a créé des embouteillages supplémentaires en rajoutant des feux rouges, en mettant des rues à sens unique, pour que les voitures arrêtent de passer par là.
Alors vous avez essayé de passer 24 heures sans smartphone, sans ordinateur, sans écran, avec votre famille, vous les avez embarqués dans cette galère.
Ouais, je ne me remercie pas.
Et comment ça s'est passé?
Alors, effectivement, on s'aperçoit de plein de choses stupide de notre quotidien qu'on ne peut plus faire. J'ai n'importe quoi, aller au restaurant. On se dit tiens, on va aller au restaurant entre midi et deux avec toute la famille. Alors on va dans quel restaurant? Bon déjà aujourd'hui on choisit son restaurant en regardant sur internet. Bon ben là on n'a pas le choix, donc on va dans un restaurant qu'on connaît. On se dit on va appeler le restaurant, mais comme on n'a pas droit au smartphone, on n'a pas le numéro. Donc on se dit bon, c'est pas grave, j'ai un fixe. Génial, sauf que vous appelez le 12, ça ne marche plus. Vous avez pas les pages jaunes, donc vous avez pas le numéro. Donc vous allez à pied au restaurant, vous pouvez pas réserver. C'est très bête.
Et là on vous dit qu'il faut réserver sur internet.
Voilà, mais c'est très bête, mais des choses aussi simples que ça devient compliqué.
Rémoud Guiri pour terminer. On est fichu, même si on souhaite se déconnecter, ça risque de nous coûter cher dans notre vie quotidienne.
Oui, il faut, à mon avis, il faut se déconnecter de temps en temps. Alors, 24 heures, ça paraît beaucoup.
Ah, c'est long. Hein.
Mais je pense que c'est important de faire des cures régulières où on se retrouve en face de vrais gens, en face de ses amis, en face de ceux qu'on aime, sans appareils technologiques à nos côtés, simplement pour redécouvrir la beauté d'un sourire, la beauté de d'être ensemble, tout simplement, le plaisir, le vrai plaisir qui reste à la fin des fins émotionnel.
Après, sur ces 24 heures de déconnexion, c'est marrant parce que la conclusion que j'en ai tirée, c'est pas celle que j'imaginais. C'est-à-dire que c'est pas extraordinaire non plus de se déconnecter, parce que finalement, ça complique plus la vie qu'autre chose. J'ai pas retrouvé le truc d'extraordinaire d'entendre les oiseaux chanter. Enfin, vous voyez, ça marche pas, ça. Donc c'est bien d'être connecté quand même, voilà.
Merci, ne serait-ce que pour payer ses impôts.
Hein. Oui, aussi, oui, pour écouter la radio en numérique, par exemple.
Merci Cyprien. Signe, on peut sourire hein, en lisant « Nos ordinateurs sont très cons », publié chez Albin Michel. Pourquoi vous regardez comme ça?
Est-ce que le titre nous fait rire? Non,
mais ça tombe bien, ça commence bien.
Merci Rémy de Guiry, déconnectez-vous, est disponible en poche chez Arléa. Demain, merci. Faites les mots avec le grand lexicographe Alain Rey. Nous fêterons ensemble la nouvelle édition du Dictionnaire historique de la langue française. Quels sont vos mots préférés et quels sont ceux qui vous révulsent? N'hésitez pas à vous manifester au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Philippe Duclos et Élise Christophe. À suivre Nagui et sa bande originale.